Lève, épisode 105 du 24 février 2025. Au sommaire aujourd'hui, 1 250 000 $ pour que vieillir soit plus gai dans les 5 prochaines années. Égide, organisme non gouvernemental francophone pour l'égalité et les diversités, célèbre ses 5 ans dans un contexte difficile avec la montée de la haine anti-trans et anti-queer dans le monde. 12 organismes dont la Chambre de commerce LGBT du Québec reçoivent 2 800 000 $ du ministre de la Petite Entreprise, pardon, dans le cadre du programme pour l'entrepreneuriat des communautés de ELGBTQIA+. Culture queer est de retour et on parle de poésie. Et enfin, bon anniversaire à un sous-vêtement fétiche, le suspensoire, oui, le jockstrap.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
On a beau dire que c'est donc beau vieillir et que c'est un super moment de la vie, ça, je trouve ça franchement carrément condescendant. Cela dit, les personnes vieillissantes sont souvent confrontées à des défis, que ce soit la santé, les finances, l'isolement, et c'est particulièrement vrai pour les personnes vieillissantes des communautés de la diversité sexuelle et de genre. La Fondation Émergence propose un programme pour rendre la vie meilleure pour ces personnes-là. On appelle ça « Pour que vieillir soit gai ». Et ce programme vient de recevoir un énorme coup de pouce, 1 250 000 $ du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie du gouvernement québécois pour les 5 prochaines années. C'est une bonne nouvelle, puis pour en parler, on reçoit Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Allô, Laurent?
Oui, salut, Denis Martin.
C'est une bonne nouvelle?
Oui, on est très content, une excellente nouvelle.
Ben oui, alors quels sont les enjeux du vieillissement, particulièrement pour nos communautés de la diversité sexuelle et de genre?
Se mettre dans une perspective historique, nos aînés LGBTQ+, ont connu une époque plutôt hostile, hein? La criminalisation de l'homosexualité jusqu'en 69, considérer l'homosexualité comme une maladie mentale jusque dans les années 70 et même avec l'Organisation mondiale de la santé qui a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales en 90. Puis, ajoutons à cela tout ce qui concerne les communautés religieuses. On sait que les religions ont toujours eu beaucoup de difficultés avec les personnes LGBT, donc considérer l'homosexualité comme un péché. Ce qui fait que quand on a tout ce cumul-là, ben nos aînés des communautés LGBTQ+, ont gardé des traces, que ce soit des traces psychologiques, des traces physiques. Donc, une vulnérabilité qui est bien présente. Et nous, on cherche vraiment à ce que les milieux aînés soient conscients de ça puis adaptent une approche qui, elle est bienveillante. Il y a aussi beaucoup de nos aînés qui sont dans le placard, invisibilisés. Quand on pense à la diversité sexuelle et de genre, on pense automatiquement aux écoles, hein, à la ouais. jeunesse et tout ça. Mais on oublie que nos aînés de 65 ans et plus sont très nombreux, pratiquement autant que les 25 ans et moins au Québec pour une question démographique. Ouais. Pourtant, on les voit pas du tout, mais ils sont présents dans leur milieu, mais ils n'osent pas vivre authentiquement parce que les aînés dans la résidence sont pas nécessairement ouverts, les intervenants
c'est ça.
Non plus.
Souvent, ils retournent dans le placard quand ils retournent à la résidence. Il y avait un documentaire qui le démontrait, là, que Danny Turcotte avait fait. En quoi le programme Pour que vieillir soit gai répond à ces enjeux-là?
Ben, c'est un programme qui a fait ses preuves, hein, qui existe depuis 2009. En 2022, on n'avait plus de financement, donc je suis très content là, que la ministre Martine Biron, le Bureau de lutte contre l'homophobie, puisse nous permettre de redémarrer le programme. Ce qu'on offre principalement, c'est de la formation. Donc, de la formation à la fois pour les aînés, mais surtout pour les intervenants et les intervenantes dans les milieux aînés. Donc, on leur explique c'est quoi les réalités LGBT. On leur explique aussi les particularités des aînés LGBT, puis les bonnes pratiques d'inclusion pour s'assurer que les milieux soient inclusifs, puis que s'il y a de l'homophobie ou de la transphobie, ben, les intervenants sachent quoi faire.
Ouais.
Donc, on prévoit une tournée de formation dans un maximum de tournées de régions au Québec.
Oui.
Sur les 5 prochaines années.
Donc, c'est à quoi va servir le financement? C'est un peu d'élargir vos horizons. Là.
Absolument, absolument. Puis se déployer au-delà de Montréal, là, on veut aller vraiment avec des partenaires LGBT dans les régions. Là, on veut offrir notre formation partout au Québec. Puis on prévoit aussi un symposium national qui va réunir les acteurs clés des milieux aînés pour vraiment discuter de la problématique puis voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour mieux soutenir nos aînés LGBT. Donc, on va solliciter évidemment, par exemple, la FADOC, l'AREC, l'ARIC, les ressources intermédiaires.
C'est toutes des organisations qui soutiennent les personnes vieillissantes, là, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ben, tout le monde qui travaille avec les aînés, c'est notre public cible. Puis on les considère comme nos partenaires déjà actuellement, mais aussi nos partenaires futurs.
Laurent, il faut dire aussi que ce financement arrive à point nommé là, dans un contexte absolument difficile pour nos communautés à l'échelle mondiale. Oui. Est-ce que ça rentre aussi dans les considérations de ce programme, de ce que vous allez faire avec cet argent-là?
Bien, c'est sûr que le programme va vraiment être axé sur les réalités aînées, mais personne n'est dupe. On voit les reculs. D'ailleurs, ça faisait l'objet de notre dernière campagne pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai. Sans dire qu'on était, j'allais dire, visionnaire, c'est pas tellement ça, mais on sonnait déjà l'alarme le 17 mai dernier, comme quoi qu'il y avait des reculs qui s'en venaient. On les voit avec les décrets du président Trump aux États-Unis. On voit une baisse d'appui au Canada pour le mariage pour les couples de même sexe. On voit aussi une baisse de l'opinion canadienne sur les couples homoparentaux, comme quoi que des couples gays pourraient être d'aussi bons parents. Il y a une petite baisse là, de l'appui au Canada. Donc, on sent vraiment une trame de fond actuellement qui est inquiétante, préoccupante. Puis d'aller voir les aînés directement, c'est une manière aussi de savoir où en sont nos aînés sur ces enjeux-là. Mais je dois dire, Denis Martin, par expérience, là, il y a beaucoup plus d'ouverture puis de compréhension chez les aînés qu'on pense.
Ouais.
C'est des générations qui avaient l'habitude de pas en parler. Hein. C'est quand ton frère ou ta sœur qui est gay ou lesbienne, puis que ça soit su, ben à l'époque on considérait que c'était une maladie mentale. Fait que les familles cachaient ça, mettaient ça sous le tapis pour pas nuire à la réputation de la famille. Mais aujourd'hui, les langues se délient, puis les aînés voient bien que leurs petits-enfants peuvent être de la communauté LGBT, même leurs enfants. Donc, ils ont des questions. On leur donne pas souvent le crachoir pour pouvoir s'exprimer sur ces enjeux-là. Ben nous, on va le faire, puis on va leur permettre de pouvoir s'exprimer, puis poser sans crainte leurs questions, sans jugement. On est là pour les accompagner.
Alors, Laurent, t'as ouvert une porte, puis tu sais que j'ai une question là-dessus. T'as parlé de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est le 17 mai. Je sais que c'est pas le temps de l'annoncer, mais peux-tu me dire quelque chose sur ce que vous allez faire comme campagne cette année?
Oui.
mon piège était là.
Oui. Non, mais c'est bien. Je sais que tu te fais un devoir de toujours en parler. Puis c'est très apprécié. C'est une journée qui est importante. C'est le moment fort dans l'année pour de la sensibilisation, de l'éducation sur les réalités LGBT. Donc, c'est important qu'on soutienne le 17 mai. Cette année, je ne peux pas révéler encore le thème, sinon on nuirait à nos propres efforts de communication, mais ce que je peux dire, c'est qu'on veut un message positif, rassembleur cette année. On a tellement en ce moment, le contexte est tellement déprimant, puis on sent que nos communautés ont besoin d'être remotivés, puis aller chercher aussi l'appui des alliés, de nos familles, de notre entourage, sentir qu'on n'est pas seul. Fait qu'on tourne autour de ces enjeux-là.
Mais c'est clair que je vais te réinviter pour en parler. Merci beaucoup, Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence, qui nous parle donc du programme Pour que vieillir soit gay.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
Un petit organisme qu'on connaît peu encore, hein? c'est spécial, mais un petit organisme qui célèbre son 5e anniversaire, Égide. C'est un organisme à but non lucratif et aussi non gouvernemental, une organisation qui agit en faveur des droits et de l'épanouissement des personnes LGBTQIA+, dans l'espace francophone international. Et pour en parler, je reçois Bruno Laprade, qui est responsable des communications chez Égide. Salut!
Merci, bonjour!
Alors, je rappelle que toi, tu utilises les pronoms « il » et « iel ». Ça se peut que j'utilise les deux. Parlons d'abord d'Égide. Je viens de le dire, c'est un organisme qui n'est pas encore très connu, mais qui fait beaucoup. Hein. Je suis allé voir votre site, vous travaillez fort.
On est en effet encore une jeune organisation, mais en effet, on a des projets dans 3 régions, notamment un projet sur la santé mentale au Cameroun et en Afrique de l'Est et centrale, un projet sur les femmes LBQ aussi en Afrique de l'Ouest, et on a un nouveau projet en Afrique du Nord. On a eu un fonds qui a financé 22 projets à travers le monde également, autant en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes. On a juste 5 ans, mais déjà, on a développé une crédibilité, une respectabilité. Et même s'il y a une grande partie de notre travail qui est quand même invisible parce qu'on fait du réseautage, on cherche à créer des liens entre les gens. Mais on a été présent cette année au Equal Rights Coalition en Allemagne. On a été à ILGA en Afrique du Sud. Et notre directeur était même invité dans la délégation personnelle du premier ministre du Canada au sommet de la francophonie. Donc, tout ça pour dire que déjà en 5 ans, mettre en place un réseau, c'est pas facile, mais en 5 ans, on a déjà commencé à montrer l'importance de cette
initiative. Et rappelons comment ça s'est venu au monde, parce que c'est une initiative québécoise, hein?
Exactement. En 2017, pendant Canada Pride qui avait lieu à Montréal, les activistes se sont réunis dans une grande conférence internationale et ont dit, ben nous, on a besoin d'avoir un réseau en français, parce que la langue officielle dans les réseaux internationaux, c'est l'anglais, des fois l'espagnol, et souvent, donc, il y a un manque de visibilité, il y a même un manque de financement qui va dans les pays francophones, et donc les activistes ont dit on aurait besoin de ça, et le gouvernement du Québec a entendu cette requête et a financé la mise en place du réseau, et c'est comme ça qu'on est né en 2019 à Montréal.
Dans la francophonie mondiale, c'est quoi les défis? Là? Ils sont probablement innombrables, mais les défis principaux, qu'est-ce que c'est?
Ben, en ce moment, on est un peu tous et toutes sous le choc, comme Laurent mentionnait. En fait, en ce moment, nous, par exemple, on a été indirectement affectés par les décrets du président Trump. Ça a un impact fort sur le financement est en train de tomber pour plusieurs organisations. Et donc, c'est d'autant plus important en ce moment de soutenir les organisations un peu partout à travers le monde pour qu'ils puissent continuer de donner leurs services, pour qu'ils puissent éviter d'avoir à retourner dans l'ombre, pour éviter qu'ils soient la cible également de menaces, de toutes sortes de harcèlements. Et donc, ils ferment leurs portes parce que si les organismes se mettent à fermer suite à toutes les pressions, ben, il n'y aura plus personne pour soutenir, défendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de santé mentale des activistes LGBT, parce qu'on est souvent en première ligne de ces situations-là. Et donc, quand les activistes eux-mêmes se font harceler, se font attaquer, ben, il y a encore moins de gens pour donner des services, puis les mouvements ne peuvent pas durer dans le temps.
Oui, et surtout que, pour le rappeler, là, Donald Trump, c'est qu'il a signé des décrets, dont celui de couper l'aide internationale, et beaucoup de cette aide-là allait dans des pays de la francophonie aussi pour aider des organismes LGBT ou indirectement. Et là, ces organismes-là se retrouvent dans des situations compliquées. Et où on va trouver le financement de remplacement? Ouf!
Bien, c'est un du travail que fait Égide, justement, c'était de voir comment on peut amener les différents gouvernements à s'engager. On avait déjà commencé avec le gouvernement du Canada, on travaille avec le gouvernement, par exemple, de la France. Il y a encore plein de gouvernements alliés comme ça qui peuvent venir nous aider à renforcer et qui sont partants pour pouvoir renforcer ce travail sur le terrain aussi. Donc ça, c'est le travail qu'on fait d'accompagnement pour faire ce plaidoyer un peu invisible. Et on a évidemment la conférence qui s'en vient cet été, dont on avait déjà parlé ici, qui va avoir lieu du 31 juillet au 3 août. Et ça va être un moment important justement pour réunir les communautés, savoir comment s'organiser. C'est dans le titre « Horizon LGBTQI francophone, transmettre, célébrer et préparer demain » avec justement cette importance de comment on s'organise ensemble et les financeurs et la société civile et les entreprises. Donc, toutes les strates.
Il y a quand même une grande mobilisation. On remarque que même si les gouvernements comme celui des États-Unis se désengagent, il y a quand même une grande mobilisation qui se fait d'autres intervenants. Puis je pense que c'est ça un peu qui est rassurant. Hein?
Oui, c'est très rassurant de voir qu'il y a des réseaux qui en parlent, qu'il y a les groupes se mobilisent, il y a des résistances qui se font également. Oui, il y a des organismes qui peut-être se désengagent sur la question de la diversité, l'équité et l'inclusion, mais tu en as au contraire d'autres qui réaffirment haut et fort à quel point c'est une richesse, que nos communautés sont importantes. Et donc, la solidarité, elle est là et on va passer à travers ces moments difficiles, c'est sûr. Mais c'est d'autant plus important d'avoir à se réunir. Puis j'en reparle parce que...
Et se célébrer.
Parce que c'est vrai, mais parce qu'avec la conférence également, on sait un des défis de faire venir des activistes d'un peu partout, c'est que ça coûte cher. Donc, on va lancer d'ici quelques semaines d'ailleurs une campagne de levée de fonds pour nous aider à aller donner des bourses aux
vous
activistes.
Vous nous tiendrez au courant, puis on va certainement en parler à ce moment-là. Cette conférence est une façon de célébrer votre 5e anniversaire. Puis on le dit, on le répète, c'est sûr que c'est difficile, le contexte est très difficile internationalement, surtout avec l'arrivée de certains gouvernements d'extrême droite, dont celui des États-Unis. C'est important de se célébrer, de faire cette grande conférence qui va coïncider quand même avec le début de Fierté Montréal.
Exactement, on a lieu dans le cadre de Fierté Montréal. Et quelle meilleure façon que aussi de souligner nos gains que de faire la fête. C'est important aussi justement de pouvoir y aller de manière plus positive également. On est là, on existe, on est présent et notre joie a aussi une importance majeure. Donc, la conférence sert aussi à souligner cette force que l'on a quand on est ensemble.
Qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Là? Je sais que c'est une conférence avec beaucoup de personnes, mais d'après toi, là, le point ou les deux points les plus importants de cette conférence qu'il ne faut pas manquer?
Les points principaux de la conférence, en fait, c'est beaucoup... Bon, on a une conférence justement qui va beaucoup traiter de comment on se réunit, comment on s'organise. Je pense que le but, c'est d'avoir un outil pratique qui sort après ça, une voie pour nous permettre de continuer puis de savoir, OK, donc tout le monde, on va travailler
comment
dans le même sens,
oui.
Comment on se mobilise. Nos contextes sont différents, les répercussions sont différentes, qu'on soit dans le nord, dans le sud, dans différents pays. Mais malgré tout, on va trouver des façons de maximiser nos efforts. Donc ça, c'est un des aspects importants dans nos grosses conférences du matin. On a aussi également toute la partie Assemblée générale d'Égide qui va avoir lieu et on va avoir des ateliers autogérés qui sont directement faits par nos membres qui veulent nous proposer des thématiques sur les sujets qui leur importent à eux. On n'a pas encore pu les annoncer, mais ça s'en vient, ça aussi. Et on pourra tout retrouver ça, soit sur le site de la conférence au conférence.égide.org oui. Ou sur le site d'Égide. Égide, donc
avec
EGIDES.org.
Ah, mais mon Dieu, tout fait ça en exactement le temps requis. Merci beaucoup, Bruno Laprade, responsable des communications chez Égide.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Être en affaires quand on est queer, vous allez me permettre le jeu mot, c'est pas toujours très gay. La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Richie Valdez, a annoncé le nom de 12 autres organismes bénéficiaires qui recevront un financement totalisant 2,8 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour l'écosystème du programme pour entrepreneuriat des communautés de LGBTQIA+. Et la Chambre de commerce LGBT du Québec est l'un de ses bénéficiaires. Pour en parler, un couple de femmes d'affaires qui ont fracassé les plafonds de verre totalement et ont lancé une entreprise d'emballage cadeau réutilisable. Je suis allé voir leur site web, c'est vraiment le fun. Alors, je vous les présente, Maude Girard et Gabriel Huppé. Bonjour, bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir.
Ben oui, c'est le fun de vous rencontrer puis de vous connaître. Hein. Écoutez... D'abord, on va parler de votre entreprise. Ça s'appelle Next Chance. Et qu'est-ce qui vous a motivé aussi à lancer ça ensemble?
Ah ben là, ça remonte en 2020, en fait, quand Maude et moi, on a eu la ferme conviction qu'on voulait partir un projet d'impact. Les deux s'étant connus, comme on a un couple dans la ville, on s'était connus en fait dans notre ancienne
carrière
qui était dans le domaine des finances. Puis on avait trouvé qu'on était en fait très complémentaires sur le plan professionnel, puis qu'on voulait lancer un projet qui allait avoir un impact plus grand que nous en fait. Puis quand est arrivé en novembre 2019, Noël, la saison de Noël, on était en train de préparer nos cadeaux, puis ben c'est là qu'on a eu vraiment la prise de conscience de tout le papier cadeau qu'on emballe, qui est souvent pas recyclable en plus. On s'est dit, ben c'est quoi les alternatives, tu sais, est-ce qu'il y en a? Puis finalement, ben c'est là qu'on a été très, très mobilisés et motivés là, à lancer notre projet. Puis, qui est fait aussi d'économie circulaire, là. En fait, les tissus qu'on utilise, les tissus d'emballage cadeau, sont tous faits en fait à partir de tissus qu'on rescape d'entreprises locales, donc des surplus textiles de designers, de manufactures, qu'on transforme de manière créative en emballage cadeau, un peu comme les furoshiki, qui sont des carrés de tissus qu'on vient nouer, là, un
oui,
peu
oui, oui.
Inspirés de l'art japonais. Et on a le chou réutilisable en tissu qui vient agrémenter le cadeau. Donc, c'est comme ça qu'est parti Next Chance en 2020.
Ça, c'est Gabriel qui parlait. Maude, vas-y donc, toi, raconte-moi comment tu as vécu ça, ce lancement. Puis c'est en pleine pandémie en plus de ça, là, on s'entend.
Ouais, vraiment. Ben nous, dans notre famille, on a toujours fait beaucoup de cadeaux. Donc, autant des fêtes, aux anniversaires, c'est toujours comme un moment qu'on apprécie. Puis, il y avait beaucoup de gaspillage. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Fait que là, dans le fond, avec Gabriel, on s'est posé la question vraiment comment on va trouver une manière créative, comme elle le disait, pour continuer ces festivités-là, mais de façon plus respectueuse de l'environnement. Puis moi, ça m'a vraiment parlé parce que je suis très attachée aux traditions. Puis, ben, c'est vraiment de là qu'est né le projet. Puis en 2020, ben, la pandémie. Donc, on a lancé le projet. On a notre site web nextchance.ca. Puis c'est là qu'on a tout débuté.
Bon, maintenant, comment le programme dont on parlait tout à l'heure, le programme de soutien pour l'entrepreneuriat des communautés de LGBTQIA+, pour aider des entrepreneurs comme vous, entrepreneuses comme vous, comment ça va vous aider ou qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Oui.
Ben,
Mode, oui.
nous, on a moins accès. On sait que, par exemple, aux États-Unis, c'est moins de 5 % des fournisseurs auprès des grands donneurs d'ordre qui font partie de la diversité. Donc, par exemple, une grande entreprise qui veut avoir un nouveau fournisseur, ben, c'est moins de 5 % des personnes qui font partie de la diversité. Puis, dans la diversité, on inclut aussi les femmes.
Oui.
Fait que nous, on fait partie de ce moins de 5 %-là. Donc, d'avoir du soutien pour être mis en contact avec ces grands donneurs d'ordre-là, que ce soit du soutien financier par du financement, l'aide des chambres de commerce, ben, pour nous, c'est vraiment précieux pour se tailler une place.
Donc, vous êtes membre de la Chambre de commerce de queer ou de LGBT du Québec, c'est ça? Oui.
Exactement. En fait, de la CGLCC, puis également de la Chambre de commerce LGBT, là, au Québec.
Au Québec. Juste pour donner des petites données, parce que c'était sur le communiqué de presse de la ministre, c'est quand même important de le dire. Les entrepreneurs et entrepreneuses des communautés de LGBTQIA+ sont une force motrice de l'économie canadienne. Plus de 100 000 entreprises sont détenues par des membres de ces communautés au pays. Puis on dit que vous employez 435 000 Canadiens et Canadiennes et ça génère 22 milliards en activité économique. C'est pas rien, là. Vous avez-vous des... Oui.
Effectivement, effectivement. Ben, en fait, je suis contente que ces chiffres-là ressortent lors de cet événement parce qu'en fait, ça a été un sujet qui a été beaucoup abordé dans les derniers mois avec la CGLCC. C'est-à-dire qu'il y a énormément de richesse puis de créativité puis il y a de l'activité économique qui se passe au sein de la communauté qui est très riche puis en fait qui est, ma foi, très bonne aussi pour la société, on pense. Donc, c'est important, je pense, qu'on ait ressorti ces chiffres-là. Puis pour nous, pour notre part, ben, ça nous donne encore plus envie de s'exposer en tant aussi que couple de femmes en affaires, puis d'en inspirer d'autres à joindre le mouvement, là, bien évidemment, si les gens sont inspirés à devenir entrepreneurs.
Ben oui, de toute façon, je veux dire aussi que vous avez été, vous êtes finaliste hein, au prix des femmes d'affaires Québec 2024, c'est pas rien, dans la catégorie femmes en mouvement. Alors, je reviens à ce que, je pense que c'est Maude qui l'a dit, que vous êtes doublement de la diversité en étant des femmes et des femmes queer ou des femmes lesbiennes. En quoi ça joue contre vous? C'est quoi les obstacles que vous observez en tant qu'entrepreneuse de la diversité?
Bien, c'est sûr que historiquement, on avait moins de place dans les chaînes de valeur, c'est-à-dire du fournisseur au client, dans les chaînes de valeur pour, par exemple, nous, on fait des produits, hein, donc pour entrer les emballages cadeaux, bien, dans ces chaînes de valeur-là, on n'a pas de connexion. Donc, on fait vraiment notre place à travers un monde qui était au passé beaucoup plus d'hommes, là, tu sais,
Ouais.
classique. Mais ceci étant dit, je pense que là où on rencontre vraiment des enjeux pour nous, c'est vraiment au niveau du soutien, du financement. Je
Ouais.
pense que c'est vraiment un enjeu pour nous, autant en tant que femme que communauté. Je vais donner un petit exemple, c'est que nous, au début, le premier financement qu'on est allé chercher, on s'est fait dire par un homme, votre projet est vraiment beau, il y a une belle ambition, mais quand vous allez trouver le bon gars, qu'est-ce qui va se passer avec l'entreprise? Et qu'encore, ça
Ah.
existe, là, encore des préjugés. Ça existe encore. Il y en a peu, il y en a pas beaucoup, mais ça existe encore. Puis
Ah,
ça
mon
nous a
Dieu.
freiné ce financement-là, par exemple.
Moi, j'aimerais, parce que, veux, veux pas, deux femmes qui réussissent en affaires, c'est un modèle pour d'autres. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à d'autres jeunes femmes, qu'elles soient lesbiennes ou pas, qui veulent se lancer en affaires?
Ah ben moi, je dirais à la communauté, mais comme aux femmes également, là, comme vous dites, là, ben de se lancer, puis même à tout le monde en fait, parce que je pense qu'au fond, là,
Vraiment.
on a tous des différences, hein? Puis
Oui.
pour moi, la différence, c'est ça la richesse, mais ceci dit, je pense que tout le monde qui veut amener son grain de sel, avoir un impact dans la société, moi je dirais lancez-vous, il y a des ressources, il y a des organisations justement comme on dit la CGLCC, la Chambre de commerce LGBT, il y a des organisations pour nous soutenir au niveau féminin, ben il y a la REFAC, donc ben on est des passionnés, des entrepreneurs passionnés, donc ce qu'on dirait c'est vraiment soyez passionnés, puis ben en fait je peux peut-être terminer en disant également que là, c'est Gabrielle qui parle. Pour ma part, moi, quand on a lancé l'entreprise, ben, j'ai dit à Maud, moi, j'ai l'impression de faire un deuxième coming out. Fait que, parce que j'ai dû faire face à potentiellement ben, peut-être des craintes que j'avais à l'intérieur de dire, je deviens entrepreneur, j'aurais plus de salaire fixe, ça va changer. Mais tu sais, une fois que ça s'est fait, ce saut-là, là, à pieds joints, là, ben, il y a tellement de belles choses qui se trouvent l'autre bord, comme des enjeux aussi, mais c'est un tellement beau métier.
Bien, on va devoir arrêter ici parce qu'on est arrivé au bout de notre temps. Merci beaucoup à toutes les deux. Puis je veux juste rappeler que Next Chance a permis de rescaper 27 000 mètres de tissu. C'est quand même pas rien, hein, depuis sa création. Merci beaucoup à toutes les deux, donc Maude Girard et Gabrielle Huppé. Merci toutes les deux.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. Heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DMChabotAuteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Et dans la deuxième partie, c'est Culture Queer et Jockstrap. Ouais, c'est une drôle de combinaison, mais vous allez voir.
Ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Wow. Ben oui, tout le monde rigole dans le studio. Je pense que ce petit thème musical-là fait du bien, ça nous fait du bien. Beaucoup de monde dans notre studio pour ce Culture Queer. Je vais commencer par la personne qui est à l'extérieur, qui est là, qui est à Québec, Brian Saint-Louis à Québec, notre chroniqueur littéraire. Comment ça va, Brian?
Ça va très bien, et vous?
Oui, ça va très bien. Deux titres dont on va parler un peu plus tard à l'émission, c'est lesquels?
On va parler de famille queer aujourd'hui et on va aussi parler de non-monogamie dans une salle de bain d'un sous-sol de bungalow.
Oh, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Et toi, tu vas nous parler de quoi, Donald Bilodeau?
Oui, bonjour tout le monde. Je vais parler de la mini-série Heartstopper. Je la nomme en anglais parce que ça n'a pas été traduit au niveau du titre.
Oui.
C'est une série britannique qui passe sur Netflix.
Oui, je sais.
Je sais.
On n'aime pas beaucoup Netflix
on
ces
n'aime pas beaucoup
jours-ci,
Netflix,
mais
mais
c'est une bonne.
c'est britannique.
Oui, puis c'est des bons livres aussi.
Oui,
J'ai eu la chance de lire.
exact.
Et je vais aussi présenter, mais il va nous revenir un peu plus tard, Philippe Aubert Côté, qui
Clairement.
fait notre queer côté geek.
Oui, pour une édition un peu spéciale pour parler d'un vêtement séducteur, subversif et révolutionnaire à la fois, qui est le jockstrap.
Le jockstrap au suspensoire. Et on a notre invité qui va nous parler de poésie. Allô, Pascal Cormier, poétesse, comment ça va?
Bonjour, ça va bien, toi?
Ça va très bien, Pascal. Bon, on va commencer avec toi.
OK.
C'est la Nuit Blanche à Montréal, qui est un événement annuel. Et cette année, tu vas organiser une soirée de poésie queer.
Oui, en fait, dans le cadre des 10 heures de poésie, Oui. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est un événement qui dure 10 heures dans le cadre de la Nuit Blanche. Et on m'a confié un volet d'une heure transpoésie.
Et donc, transpoésie, raconte ce que c'est transpoésie.
Ah mon Dieu, c'est une longue histoire. C'était d'abord des soirées mensuelles que j'ai animées pendant quelques années au Bistrot Le 24.
Qui n'existe plus maintenant, malheureusement.
En fait, j'ai dû abandonner ces soirées-là à cause de la fameuse pandémie qui nous a...
On l'a eu, celle-là, qui nous a
privé de public. Et bon, après la pandémie, le public n'est pas revenu. Alors, j'en ai pris acte. Et je voulais aussi passer à autre chose. Je voulais... C'est pas que j'en ai contre les micros libres et tout ça, mais j'avais envie de professionnaliser un peu plus mon approche d'avoir des poètes vraiment intéressants qui peuvent intéresser le public.
Oui, puis sans lever le nez sur ce qu'on peut appeler les gens qui sont qui écrivent sur un coin de papier puis qui viennent nous réciter ça. Bon, c'est de la spontanéité, mais parfois la poésie en prend le bord, là, Marc.
Ben, c'est-à-dire qu'on fait des très belles trouvailles. Hein. J'ai découvert des poètes admirables de cette façon-là aussi. Sauf que, ben, évidemment, il y a des gens qui croient que la poésie, c'est facile et qui, malheureusement, se contentent de facilité d'un premier jet. Et bon, la poésie, c'est énormément de travail.
C'est aussi le parent pauvre de la culture au Québec.
Ah, mon Dieu, oui, c'est le lumpen prolétariat de la littérature, je dirais.
Tu écris de la poésie depuis longtemps, tu as publié dans de petites maisons d'édition. Est-ce que je peux annoncer que tu vas publier chez Héliotrope?
Héliotrope?
C'est chez Héliotrope, non? Je pensais que c'était là que tu allais.
Non. Ah. Je vais participer à deux collectifs qui vont paraître cette année.
Ah, OK.
L'un chez AMAC.
AMAC, excuse-moi, oui.
Et ça, c'est dirigé par Martine Delvaux et Esther Laforce.
Excellent, oui.
C'est un livre sur la ménopause.
Wow!
J'étais vraiment touché qu'on m'invite à parler de ménopause parce que, par définition, étant une femme trans, j'ai pas connu la même ménopause que les femmes.
Je peux te faire une blague, t'as mis le men en pause, tu sais.
Pardon?
T'as mis le men en pause, l'homme sur la pause. Et le deuxième projet?
C'est un recueil pour les jeunes qui va paraître chez Bayard.
Ah ouais!
Et possiblement même en France aussi.
Ben voilà, c'est des belles nouvelles.
Ça, c'est dirigé par Nicolas Dawson.
Est-ce que c'est difficile pour une personne queer qui est trans, qui fait de la poésie, de se faire connaître, de se faire entendre?
C'est de moins en moins difficile, je dirais. En ce moment, il y a quand même deux phénomènes qui, moi, me frappent beaucoup en littérature et en poésie au Québec. C'est l'émergence de la littérature queer et de la littérature autochtone.
Oui, c'est vrai.
Et ça, je trouve ça très important aussi de le souligner.
OK. Et donc, ce que tu vas faire ce samedi, et là, je vais aller en toute transparence parce que Pascal m'a invité
à
lire quelques textes. Ça m'arrive de commettre de la poésie. Mais c'est donc une soirée qui aura quand même une thématique queer.
Oui, cependant, j'ai pas nécessairement invité que des poètes queer. En fait, j'ai une poète que j'aime beaucoup qui s'appelle... Maëlle Dupont.
Oui.
J'ai eu un blanc tout d'un coup. Je suis désolé, Maëlle. Et elle est probablement une des dernières poètes de langue occitane.
Mm.
Elle écrit en français et en occitan.
D'accord.
Mais bon, sans être une personne qui se définit comme queer, c'est une très bonne alliée.
Oui.
Et c'est ça, c'est quand même important. Je ne vais pas inviter des TERFs à mes soirées de poésie.
Ça, c'est des... C'est quoi?
Trans-exclusionary radical feminists. C'est des femmes qui se prétendent féministes, elles ne le sont pas tant qu'à moi, et qui, donc, veulent exclure les femmes trans.
C'est important, la poésie, dans le monde dans lequel on vit, surtout présentement?
Ah, mon Dieu, peut-être plus que jamais, oui. Parce que c'est le seul langage que je pense une IA pourrait pas phagocyter. Parce que, bon, une IA peut créer des poèmes, bien sûr, mais ce ne sera pas des vrais poèmes.
On parle d'intelligence artificielle.
Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Parce que un poème, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne des tripes. Une machine, si brillante soit-elle, n'a pas de tripes, n'a pas de cœur.
Alors, on parle de littérature, tu vas me permettre. Je vais ajouter notre chroniqueur littéraire dans tout ça, puis on aura la chance de te poser quelques questions aussi sur des titres que tu veux nous proposer. On va aller à Québec tout de suite. Allô, Brian?
Bonjour.
Alors, toi, tu nous proposes Famille queer. J'ai déjà reçu Marianne Jupat et aussi Mona Greenbaum dans cette émission pour en parler. Comment tu as trouvé ce livre?
Ça, je me disais que tu devais leur avoir parlé parce que c'est
Ah,
quand
moi, je
même
connais tout le monde. Moi, c'est fatigant, ça, oui.
Mais je l'avais reçu, je ne l'avais pas lu encore, puis justement, de ne pas les avoir en entrevue, mais de pouvoir revenir sur ce livre-là. Une belle surprise quand même, parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Petit livre qui s'appelle Famille queer, récits et célébrations. C'est paru chez les éditions du Remue-Ménage, Marianne Spath, comme tu as dit. Vraiment, ma petite blague que j'ai faite quand je parlais de ce livre-là, c'est la famille nucléaire, bien sûr, c'est papé, maman, bébé, amour, comme dit la chanson, mais l'explosion nucléaire, elle arrive vraiment par les familles queer, LGBT. On le voit dans ce livre-là, vraiment. Si vous cherchez, vous rêvez d'une famille, vous cherchez un modèle, vous n'en avez pas trouvé, allez dans ce livre-là, c'est sûr que vous allez trouver quelque chose qui vous ressemble. Au travers de 10 chapitres, on va présenter 30 familles différentes dans ce livre-là. Et il y a absolument pour tous les goûts, là. Un papa, un parent, deux parents, trois parents, plus de parents que ça encore, des mamans, des papas, des dadas, des personnes assignées, des personnes trans, des gens qui ont eu leurs enfants avant, pendant, après leur coming out, leur transition, des enfants biologiques adoptés, des célibataires, des gens qui sont en couple, des gens qui sont des couples unis, des couples séparés, des gens qui sont en ville, des gens qui sont en région. Beaucoup de gens de l'Abitibi, de la Gaspésie d'ailleurs, qui sont très bien représentés, des gens politisés, super militants, d'autres qui sont moins, qui ont choisi leur lutte. Comme je dis, là, il y en a vraiment pour tous les goûts. La constante, évidemment, c'est le désir de créer une famille, d'avoir des enfants, de faire un milieu de vie où ces enfants-là vont pouvoir s'épanouir. Donc, ce que ça montre, ce livre-là, on le dit dans le livre, c'est un livre pour faire des. Présenter les modèles, donner des exemples, faire un peu une pierre pour montrer que ces familles-là existent, qu'elles sont là. On voit vraiment qu'avoir des enfants, c'est possible. Ça a été possible grâce aux luttes, il ne faut pas l'oublier, bien sûr. On parle là, on va parler des organismes, des regroupements de parents qui ont permis ces rencontres-là souvent, qui ont permis aux parents d'avoir des enfants. C'est eux qui ont mené les luttes, c'est eux qui ont aidé, c'est eux qui ont été là pour donner l'exemple. Donc, vraiment, un beau livre qui met de bonne humeur, ça fait du bien ces temps-ci.
Oui, on en a
Moi,
besoin. Oui.
oui, c'est ça. Donc, moi, c'est ça, je savais pas trop à quoi. Et je me disais comment ça va se passer, cette lecture-là. Finalement, c'est oui, on parle de difficultés parfois, on parle de deuil, on parle de moments plus difficiles dans les familles, mais généralement, on est quand même dans le positif, on est dans le bilan de ce que ces familles-là ont fait. Donc, ça donne vraiment, pour ceux qui auraient le goût de se lancer dans le projet, lisez le livre, c'est sûr que ça va vous donner l'élan dont vous avez besoin. Par contre, c'est sûr, le petit défaut, c'est que ça va vite quand même, 30 familles en si peu de pages. Donc, on a souvent un portrait assez général de ces familles-là. On n'a pas toujours le temps de s'attacher, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de leur vie de famille, mais c'est très intéressant quand même de les découvrir rapidement comme ça, illustrés avec des dessins aussi. On rencontre des gens en images, donc on peut se les imaginer un peu comme on veut. Et l'autre petit défaut, mon Dieu, que c'est écrit petit. Oh!
Là, Brian, je vais pas te faire de peine, non, mais ça, c'est ce qui arrive quand on vieillit.
Ah non, mais pour de vrai, j'ai dit, c'est moi qui ai vieux, mais c'est quand même un livre qui est écrit petit. Ça aurait été bien de l'écrire un petit peu plus gros, mais c'est ça mon plus gros défaut. C'est quand même un livre très intéressant, donc à mettre dans les mains de ceux-là qui auraient ce projet-là en tête, là.
Je vais lancer la balle à Pascal, parce que toi, Pascal, est-ce qu'on peut le dire, t'es la papa d'une belle-fille?
Oui, ben oui,
Oui.
bien sûr. Oui, Jade.
Peux-tu me raconter cette anecdote que je trouve savoureuse? T'es à l'aise à la raconter? Comment
Oui,
ça
bien
s'est
sûr.
déroulé avec Jade? Comment elle a décidé que tu étais sa papa?
En fait, j'ai fait ma sortie du placard, si tu veux, amorcer ma transition. Enfin, c'est tous des mots qui me dérangent un peu,
Ouais.
mais bon, on pourra en reparler. Jade avait pas tout à fait 15 ans. Et j'étais très, très, très inquiète de sa réaction. Honnêtement, quand j'en suis venu au point où il fallait que je fasse ça, parce que j'en étais au point où je planifiais mon suicide, j'en
Ouais,
pouvais
ça allait
plus,
pas
là.
bien là.
Ça n'allait pas bien du tout. Il fallait que je m'assume,
Ouais.
que j'assume la personne que j'étais. Et ma seule crainte, c'était que Jade me rejette. N'importe qui d'autre, même mes parents, je l'aurais accepté. Mais elle, ça m'aurait démoli.
Et qu'est-ce qu'elle t'a dit?
Écoute, elle a été tellement formidable. Elle était presque contente pour moi, je pense. Parce qu'elle savait que j'allais pas bien. Elle voyait. Elle est très sensible, Jade. Et elle est très intuitive aussi. Et la seule condition qu'elle m'a posée, elle a dit, moi, une maman, j'en ai déjà une que j'adore. Puis je ne veux pas perdre mon papa. Alors, c'est comme ça que je suis devenu sa papa.
Ça, papa, c'est
Oui.
tellement
Et elle
extraordinaire.
m'appelle Pa. Ça vaut à la fois pour papa et pour Pascal.
Ça, c'est le fun. C'est le fun. Je retourne à toi. Tu vois, il y a des,
Ben,
dans ces trucs-là, hein, ça.
c'est le genre d'histoire un peu qu'on a dans ce livre-là, justement. Puis on parle souvent aux parents, on parle aux mères, aux pères, aux gens autour, mais les enfants, on leur voit par l'entremise de ces personnes-là. Puis souvent, c'est eux qui font le preuve, le plus d'ouverture, pour le qui c'est le plus facile. On leur annonce des grandes révélations comme ça, puis eux, ils prennent très bien ça, ils l'intègrent facilement. On voit souvent que les enfants, ça va vite. Une transition, par exemple, où j'étais maman, 2 semaines plus tard, je suis papa, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Donc, on voit à quel point les enfants font preuve d'ouverture dans ce livre-là. C'est ça qui est beau aussi.
Oui, ce serait le fun que les adultes retrouvent parfois leur cœur d'enfant. Rapidement, on va aller à ton autre titre. On va parler de non-monogamie.
Oui, monologue d'une non-monogame dans la salle de bain d'un sous-sol. C'est paru chez AMAC, justement, donc Pascal, son futur éditeur. Karine Martel, une petite plaquette, et c'est vraiment un monologue, mais c'est aussi un seul gros paragraphe. C'est une femme qui se retrouve dans la salle de bain du sous-sol de son amant, et là, elle se met à penser à sa vie, son mode de vie. Elle est non-monogame, elle est en couple ouvert, donc elle pourrait être à ce moment-là à la maison en train d'écouter la télé avec son mari, s'occuper de ses enfants, mais non. Elle est chez son amant. Et là, elle commence un monologue où elle fait le grand tour d'horizon de sa vie. Elle répond, elle réfléchit à pourquoi elle a ce mode de vie-là. Ce qui est intéressant pour le public de l'émission, c'est qu'elle rencontre aussi des personnes. Elle va rencontrer des femmes aussi. Elle va rencontrer des personnes queer, des personnes trans. Elle salue beaucoup l'ouverture que ces personnes-là ont. Même si elle dit, les milieux queer, ils ont de la misère un peu avec moi parce que je suis trop wild pour les straight, mais je suis pas assez wild pour les queer finalement. Donc des fois, elle cherche un peu sa place. Et c'est ça qu'elle va faire tout le long du livre dans ce monologue-là qu'elle a avec elle-même. Elle cherche un peu sa place, elle cherche à comprendre son désir. On parle de désir féminin, c'est rare, c'est bien qu'on en parle. Là, on parlait de consentement, on va parler de sexualité, on n'ira pas vraiment dans le trait graphique par contre. Et moi, je l'ai lu quand même 2 fois. J'ai un peu de misère par contre à comprendre c'est quoi l'intention qu'elle veut nous faire dans ce livre-là. Elle s'explique beaucoup. On dirait qu'elle met le plaisir des autres toujours avant le sien. On sent son besoin là, vraiment de partager, de faire le point. Mais. Comme beaucoup de filles dans les salles de bain, justement, des fois qui parlent, on a juste le goût de lui demander, mais qu'est-ce que tu veux nous dire au juste? Parce qu'on cherche un peu à préciser, on aimerait ça qu'elle précise un peu plus quel est son enjeu. On sent qu'elle est à l'aise, pas à l'aise, qu'elle fait des explorations, qu'elle pourrait rêver d'autre chose. Elle réfléchit beaucoup. C'est peut-être pas justement le livre coup de poing là, qu'on attendrait sur la non-monogamie, sur ce style de vie-là. On est beaucoup plus dans la tête du personnage que dans l'exploration. Mais justement, s'il y a des gens qui explorent ces modes de vie-là, de voir justement qu'on aborde cette question-là dans la littérature, ça ouvre encore une fenêtre, c'est bien. Donc, peut-être pas moi le livre qui m'a le plus charmé, là, mais point de vue intéressant, puis c'est ça, beaucoup de désir féminin, ça c'est très bien parce qu'on en parle assez peu dans la littérature, de
Tout à
comment une
fait.
femme
Tout
peut
à fait.
parler librement de sexualité parce que souvent c'est tabou, puis là, de voir son mode de vie, justement, elle pourrait être jugée, mais elle vit bien avec ça quand même. Donc, pour le temps que ça prend, cette petite plaquette quand même intéressante, c'est ça. Malgré mes petites réserves, on peut y jeter un petit coup d'œil. Karine Martel chez AMAC.
Nous, on va aller maintenant voir Donald Bilodeau.
Oui.
Donald Bilodeau, tu vas nous parler d'une série qui est diffusée sur Netflix. On t'en voudra pas parce
Non.
qu'il y a quand même un mouvement de boycott de
De
Netflix pour les
Netflix.
raisons qu'on connaît. Mais Heartstopper, qui est d'abord et avant tout une bande
Une
dessinée,
bande
ça se, re ça se retrouve donc sur Netflix.
Sur Netflix, c'est ça. Ça a été créé par Alice Oseman. C'est elle qui a créé la série et c'est évidemment elle qui a publié en ligne depuis 2016 le roman graphique. C'est l'histoire. Bon, d'abord, c'est une série qui dure 3 saisons de 8. C'est pas long, 8 épisodes chaque saison. Donc, ça dure 3 ans, 3 saisons, 24 épisodes d'une trentaine de minutes chacun. Ça passe très vite. C'est une comédie dramatique, romantique, réalisée par le Gallois Euros Lynn. L'histoire, c'est 2 adolescents, Charlie Spring et Nick Nelson, qui sont des élèves de l'école Truman Grammar School. Dans le sud-est de l'Angleterre. Charlie est introverti et intellectuel, c'est un rêveur, il est ouvertement gay, mais sans que son entourage s'en rende compte, du moins au début de l'histoire, Charlie, qui est un être très angoissé, souffre d'anorexie. Évidemment, le fait qu'il s'assume comme gay lui apporte son lot d'ennuis à l'école, même si la série est présentée sur un ton d'optimisme et de modernisme. Nick, lui, c'est le charmant joueur de rugby populaire de l'école que tout le monde suppose à être hétéro, mais qui, en secret, s'interroge sur son orientation sexuelle au moment où il devient très proche de Charlie. On va finir par apprendre qu'il est bisexuel. Et d'ailleurs, le comédien qui incarne Nick, c'est Kit Connor, qui a lui-même fait son coming out bisexuel à l'automne 2022. Et en passant, c'est lui qui faisait le rôle d'Elton John, adolescent, dans le film Rocketman, tourné en 2019. La raison pour laquelle je tenais à vous parler de cette série qui pourrait, à prime abord, passer pour anodine, des histoires d'adolescents et tout ça, c'est qu'elle est vraiment géniale. On s'attache rapidement et réellement au personnage. On se plonge dans l'histoire facilement. La série met en valeur la beauté de toutes les sexualités et nous apprend à ne pas avoir honte d'être qui nous sommes, peu importe le regard des gens. Dans l'histoire, évidemment, il n'y a pas que Charlie et Nick. Il y a aussi leur famille, leurs amis de l'école. Et parmi ceux-ci, il y a le personnage de Ella, qui est une fille trans qui apprivoise encore les réactions de son propre corps et qui doit changer d'école pour pouvoir vivre sa nouvelle vie sans harcèlement. Alors, on y retrouve un couple lesbien, Darcy et Tara. On y retrouve Isaac, le jeune intello qui lit tout le temps et qui se dévoile comme aromantique et asexuel et qui doit expliquer ça à ses amis qui voudraient le voir en couple, qui ne comprennent pas son point de vue à lui. Alors, on touche ici à plusieurs sujets. Bon, certains diront qu'il y en a beaucoup, mais l'idée de l'autrice, c'est de présenter l'inclusion et la diversité. Je veux juste vous le dire le commentaire de Hugo Dumas dans la presse, c'est très pertinent par rapport à ça. Il dit que cette charmante comédie dramatique dépeint une adolescence idyllique dans la communauté LGBTQ, une adolescence idéale et fantasmée qu'à peu près aucun gay né dans les années 70, 80 ou 90 n'a connue, soyons honnêtes. Mais là, il rajoute après, même si elle ne passe pas le test du réel où l'homophobie et la transphobie infiltrent encore les réseaux sociaux, on le sait, et les classes d'école aussi, au secondaire particulièrement, Heartstopper nous montre un monde égalitaire qui fait du bien à visionner. C'est touchant, émouvant et rassurant pour l'avenir.
Wow! Merci beaucoup, Donald Bilodeau. Merci.
De rien.
Restez tout le monde avec nous. Merci à Brian. Merci à Pascal Cormier. Nous, on s'en va vers une petite chronique qui va nous surprendre et nous suspendre.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Queer Côté Geek avec Philippe Aubert Côté.
Philippe Aubert Côté, tu fais de la mode aujourd'hui.
Ouais, on fait de la mode, mais ça a sa place dans une chronique culturelle parce que les vêtements, ça apporte un message, ça raconte une histoire. Donc, on est dans la culture aussi.
Là, c'est toi qui as écrit ça, fait que je vais le dire, mais sachez que ça vient pas de moi, mais ben, tu sens pas du genre à t'habiller à la mode. Tu m'as envoyé ça ce matin, je dis OK, je vais le dire, mais je vais quand même me dédouaner de ça.
Non, en effet, mais tu sais, Denis Martin, hein, c'est Coco Chanel qui disait, hein, la mode, c'est ce qui se démode. Moi, je m'habille exprès, démodé à l'avance, comme ça, je suis toujours en avance sur la mode.
C'est ma façon de contrer le truc. On va dire, quoi qu'il en soit.
Tu ne crois pas.
Ben, non, regarde. Non, je te crois sur parole. C'est ta vérité. Quoi qu'il en soit, tu vas nous parler aujourd'hui d'un vêtement très symbolique pour la communauté LGBTQ+, notamment les gays, et qui ne se démode pas depuis 150 ans.
Oui. Le jockstrap, qui est un vêtement beaucoup plus révolutionnaire et subversif qu'on pense. C'est ce que j'ai découvert en faisant ma petite recherche.
Le jockstrap révolutionnaire.
Eh oui, mais regardez bien où est-ce qu'on s'en va. Attachez vos bretelles et votre jockstrap aussi. Mais d'abord, le jockstrap, ça ne date pas d'hier, hein? Ça a 150 ans cette année. Ça a été créé en 1874, à l'origine, par un certain C.F. Bennett, sur lequel on sait très peu de choses d'ailleurs, qui travaillait dans une entreprise d'articles sportifs basée à Chicago. Et lui, on lui avait confié une mission, c'était de trouver une protection pour les organes génitaux des coursiers à vélo de la ville de Boston. Parce qu'à Boston, les colis étaient livrés par des coursiers à vélo et la ville était réputée pour avoir des rues avec des pavés vraiment inégaux. Là. À Montréal, c'est ligné de poule. À Boston, c'était les pavés inégaux. Ouais. Déjà que faire du vélo à cause de la forme des selles, c'est pas très bon pour son petit monsieur. Quand en plus, à répétition, on se faisait écraser tout ça sur
c'est
les pavés inégaux.
Sur les bijoux de famille.
C'est pas bon pour la santé. Donc lui, c'était sa mission, inventer une protection pour les coursiers à vélo.
OK.
C'est ça. Et pendant... longtemps, ça a été un objet utilitaire, le jockstrap. On l'utilisait juste comme protection au rugby, au hockey, au football, tout ça de même. Mais aujourd'hui, c'est devenu en effet un vêtement. Là, les grands designers en ont proposé leur marque, tout ça, puis en ont fait un vêtement de tous les jours qu'on peut porter, en effet, dans nos pantalons tous les jours, comme ça, qui est très confortable aussi.
Donc, ouais. De l'accessoire protecteur à l'icône gay. Oui. Ouais, peut-être qu'on n'a pas décrit c'est quoi un jockstrap. J'aime ça, je vais te faire rougir.
Rougir? Il n'y a rien là. C'est une bande élastique qu'on porte autour des reins. Ouais. Il y a une belle petite pochette en tissu sur le devant.
Pour rentrer les bijoux?
Pour rentrer les bijoux dedans, avec deux sangles à élastique qui sont passées en dessous des fesses. Le premier prototype s'était passé dans l'arrêt des fesses, ça a l'air, mais ils ont décidé de le passer sur le côté. Donc, ça fait que votre petit monsieur est très bien protégé, un peu. Donc, ça le protège contre les chocs, mais en plus, vos fesses sont soutenues et elles sont libres de leur mouvement parce qu'elles sont à l'air. Bon, ben pas à l'air dans le pantalon, on s'entend, mais ça apporte une plus grande aisance de mouvement. Donc, quand on fait du vélo, là, c'est très pratique. Paraît-il qu'Elvis Presley aimait aussi porter des jockstraps quand il chantait, là, parce
quand
que...
Quand il se déhanchait,
ça... Et j'ai validé auprès d'une source sûre, mes parents qui m'ont confirmé qu'ils se déhanchaient beaucoup. Et en effet, le jockstrap, c'était même très utile pour ça. Ça permet une plus grande aisance de mouvement. L'air moins de frottement, c'est beaucoup plus confortable.
Bon, il y a quand même eu quelqu'un qui l'a même qui a créé ça, puis je pense qu'il y a eu un brevet pour ça. C'était un M. Bennett, là?
Oui, le M. Bennett, il l'a inventé en 1874, puis c'est en 1897 seulement qu'il l'a breveté, puis qu'il a fondé une compagnie, la Bay Company. Donc, il a commercialisé ça, mais à grande échelle. Et c'est une marque qu'on retrouve encore aujourd'hui, les Jockstrap Bike. Là, c'est de lui, ça.
Ça, c'est l'original.
Exactement. L'original, ça vient de là. D'un simple monsieur qui avait pour mission d'offrir une protection coursier en vélo.
Bon, avant de continuer là, sur l'icône gay, par contre, il y a un terme français pour le Jockstrap.
Le suspensoir. Ou le support athlétique aussi, d'après l'OQLF.
OK. Il me semble que ça fait...
Suspensoir.
Ouais.
On connaît le sport athlétique. Ouais. Oui, j'en ai même déjà porté. Bon.
Mais il y a des femmes.
Mais c'était pas jouer au hockey.
Mais j'aime mieux le jockstrap.
Ah, je pense qu'on va mettre notre très cher Brian à contribution. Non, je te poserai pas la question si tu en portes. Le jockstrap, tu penses quoi de ça, toi?
Ah, ben là, ça dépend. En contexte, bien sûr. Pourquoi pas? Ah. Mais.
Ben oui. Alors. Ben oui. je vais amener sur le contexte gay parce que je sais que le jockstrap aussi a la bonne façon de mettre en valeur le postérieur.
Oh, mais pas juste le postérieur. C'est ça, le jockstrap est devenu dans les années 50 progressivement une icône gay. Parce que d'une part, il y a eu une esthétique très athlétique qui envahit les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'était un idéal athlétique sain pour les jeunes hommes, tout ça. Donc, il fallait se protéger aussi son équipement, évidemment. Donc, cette idée, on en donnait aux jeunes sportifs dans les écoles, tout ça. Et cet idéal esthétique-là a peu à peu envahi le milieu queer. Ouais. Et beaucoup d'homosexuels, une fois qu'ils ont quitté le collège, ils ont gardé leur jockstrap en souvenir. C'est un souvenir aussi de leurs premiers émois. Mm. Un peu, donc, ils l'ont gardé comme une relique, après l'avoir nettoyé, évidemment.
Alors, on dit le jockstrap subversif, politique, révolutionnaire?
Oui, parce que le jockstrap, ça s'inscrit dans une longue tradition, Denis Martin, là, de vêtements... avec une portée symbolique, hein, parce qu'autrefois, tu sais, on portait même des fois des coquilles devant l'entrejambe, tu sais, comme symbole de pouvoir et de puissance, hein. Vous avez juste à aller voir sur Internet les portraits du roi Henri VIII, là. Oui. Il se faisait toujours représenter avec une grosse coquille au niveau de l'entrejambe pour prouver qu'il était en santé. on mettait ça sur les armures médiévales aussi, là, pour donner une impression de force et de virilité. Et la même esthétique, tu vas la retrouver dans Star Wars, si tu vas voir l'armure de Dark Vador, là. Oui. On regarde toujours son masque à Dark Vador, mais si on baisse un petit peu les yeux, on voit qu'il est équipé en bas aussi. Hein. Il n'y a pas juste un sabre laser. Hein. Ah. Le gars, il y a autre chose. Ça a été repris exprès pour lui donner une impression de force.
Oh là là.
Et le rendre plus effrayant, plus imposant un peu. Et donc, il y a toutes sortes de symboliques qui sont associées à ça. C'est un symbole gay, c'est un symbole d'identification, c'est un symbole sensuel. Hein. C'est très érotique, un jockstrap, parce que ça met en valeur son petit paquet, mais en même temps, ça nous laisse imaginer ce qui se cache dans la boîte à biscuits. Hein. ça cache des choses, mais sans le montrer, ça suggère. Hein. Ouais. Et c'est autant populaire chez les gays qu'on va qualifier de top, parce que ça met son petit navire en valeur.
Attends, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la différence entre un top et un bottom. Alors, on va dire top actif, c'est-à-dire qu'il s'insère et l'autre reçoit l'insertion.
Le bottom reçoit l'insertion. Le jockstrap, dans le cas du bottom, ça va mettre en évidence la crique où il faut aller ancrer le tobacco, si tu veux. Donc,
on a dit des choses à cette émission-là.
On a dit des choses.
C'est devenu donc un fétiche pour la communauté.
C'est devenu un fétiche, mais c'est plus que ça aussi. C'est subversif révolutionnaire maintenant. Parce que dernièrement, tu as Kristen Stewart, l'actrice, qui se définit comme queer. Elle a fait la une du Rolling Stone. Puis allez voir la photo sur Internet, c'est fascinant. Elle est posée avec une veste de cuir et avec un jockstrap masculin, parce qu'il y a une version féminine qui existe, mais lui est masculin, avec une main dans la petite poche en avant, là, avec un look mais vraiment provocateur. Il y a Kim Kardashian qui a fait la même chose, comme pour montrer le jockstrap, c'est universel. Les femmes, on peut le porter aussi. Là, même la mode ne connaît pas de frontières, tout ça. Et c'est un peu... Ça conteste en ce moment une certaine idéologie rétrograde qu'il y a chez nos voisins du Sud en ce moment, qui veut nous enfermer dans des catégories. En portant des jockstraps, ces vedettes-là nous disent « Non, on brise les limites. » Donc, c'est révolutionnaire, un jockstrap. Pensez-y, quand vous portez ça, vous faites un geste de rébellion, vous avez une révolution dans le pantalon.
Bon, on va devoir arrêter ça ici parce qu'on va briser le temps. Et on ne veut pas faire ça. Je remercie toute l'équipe qui est avec nous. Je n'ai pas le temps de tout vous présenter, mais merci tout le monde à la table. Je vais remercier quand même Maurice Bolduc qui travaille très fort à la régie et qui nous aide à diffuser cette émission. Alors, je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine!